L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait entendre le Finistère, ou plus exactement qui vous fait entendre les gens qui dessinent le Finistère. Notre invité du jour dessine bel et bien. Forcément, il dessine, il est cartographe. Mais il ne fait pas que cela, il prend aussi des photos, il réalise des expositions poétiques et oniriques. Il est aussi artiste, mais comme tout artiste, il a des messages à transmettre sur l'anthropocène, sur le commerce continu et les échanges instantanés, sur la consommation de masse, les changements environnementaux et sociaux profonds que nous vivons. Il a 26 ans, il s'appelle Perrin Remonté. Il aurait dû venir à vélo, mais il a crevé. Alors il est venu en bus. Bonjour.
Bonjour.
Oui, évidemment, c'est un peu long venir de Brest à vélo, même si c'est faisable, vous le faites régulièrement.
Je viens pas jusqu'ici souvent, mais effectivement, à Brest, je suis à vélo. Et là, ce matin, pas de chance, la météo n'aide pas. J'ai trouvé le bus qui était bien secourable, alors voilà.
C'est ça qui est. Ça arrête juste en bas de la radio, mais c'est important de prendre les modes de transport doux. On va comprendre pourquoi. Vous êtes cartographe indépendant, donc c'est pas forcément un métier très connu, j'imagine. Pour qui est-ce que vous travaillez quand vous êtes cartographe indépendant? Enfin, en général, hein.
Ouais, alors quand on est cartographe indépendant, effectivement, c'est pas très connu parce que on n'est pas très nombreux à faire ce métier, c'est un petit monde. On travaille pour des gens qui ont besoin de cartes. Et qui a besoin de cartes? Ça peut être plein de sortes d'organismes, d'acteurs, d'institutions. Il y a par exemple dans mon cas certains musées, certaines associations environnementales. Il y a des magazines aussi, des rédactions qui ont besoin de cartes géopolitiques, de cartes de sujets d'actualité. Et puis après, il y a la vente aussi. C'est un autre secteur qui est minoritaire. Dans mon cas, j'en fais un petit peu, mais il y a la vente de cartes, cartes d'art, tirage d'art en fait, qu'on a des belles cartes qu'on imprime et qu'on envoie chez les gens.
Et parfois, vous en faites juste pour le plaisir ou pas?
Plus que parfois, ouais, très souvent. Très souvent.
Et à la base, vous êtes géographe, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait comme formation?
Alors, effectivement, ouais, tout à fait. J'ai étudié la géographie à Rennes et puis Nantes. C'était très axé vers la cartographie numérique avec des données qu'on utilisait. C'était vraiment d'un point de vue analytique et bureau d'études un petit peu, je dirais. Aujourd'hui, je m'en suis éloigné pour faire quelque chose de plus poétique, avec une dimension artistique et créative qu'on n'étudie pas forcément. Pareil pour le design, on ne nous a pas appris forcément en master de carto à faire des belles cartes. On nous apprend à être très pointu parce que chacun a son métier.
Ouais, on vous apprend peut-être plus à traiter de la donnée aussi. Enfin, maintenant, avec le big data, comme on dit, j'imagine.
Ouais.
C'est de la statistique et compagnie, des tableaux Excel, puis après on met ça sur une carte, c'est ça?
Ouais, exactement. Chercher la donnée, c'est déjà presque un art en soi, c'est vraiment une discipline. Il y en a tellement aujourd'hui qu'il faut savoir laquelle trouver. Alors quand on fait des cartes artistiques où on veut faire quelque chose d'avant tout joli et poétique, on a moins ce problème-là. On peut s'autoriser des libertés, bien sûr, mais ça reste quand même un domaine assez large, assez important dans la discipline, la donnée.
Et vous avez eu besoin d'une formation artistique ou pas spécialement?
Dans mon cas, non, pas vraiment. Je me suis un petit peu auto-formé au design graphique, ce qui n'est pas forcément facile, mais quand on a des sources d'inspiration qui nous plaisent et qu'on les regarde à nouveau, on finit par trouver son style. Et puis après, bien sûr, avant de faire des cartes, je dessinais beaucoup. Je faisais aussi des photos. Donc tout ça faisant, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me plaît, un style dans les cartes. Voilà, pour peindre le territoire d'une manière aussi jolie que possible, qui invite les gens à le parcourir.
Après, j'ai l'impression que de toute façon, la carte, elle a un bel avenir devant elle. Enfin, j'ai l'impression qu'on en parle souvent. Il y a même des chroniques cartographiques dans d'autres radios. Il y a évidemment tout ce qui est carte numérique. Enfin,
C'est vrai que la carte a le vent en poupe, hein. C'est sûr. Il y a tout l'aspect Google Maps et toutes les cartes du quotidien qui ont pris une place importante dans notre vie, dans l'économie, dans le quotidien des gens. Et après, aujourd'hui, on assiste, c'est vrai, à une espèce de renouveau, à une renaissance de la carte que les gens utilisent pour s'approprier leur territoire, pour rapprocher le tourisme de chez soi. C'est en vogue la carte, et tant mieux, je m'en réjouis forcément.
Et puis le fait qu'elle soit belle, dans votre cas, c'est aussi pour parler aux humains. Enfin, je pense que c'est toujours plus sympa quand la carte est belle. Hein. Voilà.
Bien sûr, ouais, bien sûr, c'est indispensable, je dirais.
Et alors, qu'est-ce que vous réalisez ? Vous l'avez dit un peu, hein, mais comme type de carte, là maintenant que vous êtes à votre compte, qu'est-ce que vous pensez réaliser comme type de carte ?
Alors pour l'instant, je débute un peu cette activité, donc je cherche plusieurs pistes, mais dans les cartes que je fais, qui pour l'instant me plaisent et rencontrent un succès auprès des gens à qui je les montre, c'est des cartes plus ou moins fictives. Il y a plusieurs niveaux de fiction, hein. On peut s'éloigner plus ou moins de la réalité, et des cartes globalement qui jouent avec les données réelles existantes, des concepts existants, et qui montrent le territoire un peu métamorphosé, des territoires que les gens connaissent, que les gens parcourent tous les jours, où les gens travaillent, où les gens vivent, rencontrent, font toutes sortes de choses, mais qu'on va montrer un peu différemment, qu'on va un petit peu bouleverser en gardant des éléments connus. Et moi, ça me plaît de faire ça, et les gens, ça leur plaît, parce que les gens aiment, comme tout le monde, être représentés. Faire une carte, c'est comme un grand portrait. Quand on fait une carte de la France, on fait un portrait de 67 millions de personnes, et plus on va dans l'échelle locale, ce que j'aime aussi faire, plus les gens ont le sentiment d'être représentés, et ils s'identifient à ce travail qu'on peut faire à nous, les cartographes.
On pourrait parler de cartes de prospective, enfin futuriste.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une carte, par exemple, que j'ai faite, qui était la Bretagne, si tous les glaciers fondaient. À quoi ressemblerait notre région si tous les glaciers fondaient ? Ça donne des choses assez intéressantes. Hein. Je vous laisserai aller voir sur le site que j'ai, où je mets toutes ces cartes-là.
Bah, il ne resterait pas grand-chose, hein, d'ailleurs, du Finistère, notamment.
Alors, le Finistère, c'est vrai qu'on s'en tire quand même mieux qu'en Ille-et-Vilaine, oui, et nord de la Loire-Atlantique, qui sont quand même bien immergés. Ça c'est très prospectif, c'est très fictif, hein. Celle-là c'est sans doute celle qui va le plus loin dans la
oui, parce que 70 mètres, bon, c'est pas tout de suite, même non, si ça pourrait venir assez vite, mais...
c'est un seuil assez catastrophique. C'est vraiment si toutes les glaces de la Terre fondaient, donc ouais. Là c'est la donnée estimée par l'USGS.
Je croyais que c'était 100 mètres, moi, non?
Ah, ouais. On peut toujours avoir des surprises, hein, mais le dernier chiffre que j'ai trouvé s'approche des 70 mètres. Mais après, il y a des gens aussi qui ont fait avant moi des cartes où l'eau monte de 1000 mètres. Donc là, ça donne une espèce d'archipel au niveau du massif central. C'est toujours très intéressant.
Oui, il reste quand même quelque chose de la France à 1000 mètres. Ah ouais.
Alors la majorité d'entre nous ne sont plus là pour le voir. Oui,
c'est sûr.
Et autrement, il y a aussi des cartes qui jouent sur la donnée. Donc, par exemple, qu'est-ce que donnerait la France si la population devenait des montagnes ? Donc là, on a une France qui se dessine tout à fait différemment, où la région parisienne devient un pic montagneux gigantesque de 50 000 mètres.
Ah oui, 50 000 mètres.
Ouais, c'est en fonction de la densité de l'habitant que j'ai calculé ça.
Ouais, c'est ça.
Donc ça donne les monts de France. Donc c'est un espèce de grand sommet aux neiges plus qu'éternelles. Et tandis qu'à côté, dans la diagonale du vide ou dans le massif central, on a la grande mer de la vacuité, où on a une mer en fait complètement une zone complètement dépourvue de terres émergées, tandis qu'à chaque zone urbaine en France, on a une petite île, une petite montagne qui se dresse au milieu d'un territoire.
Brest, par exemple, c'est quelle hauteur ? Ça fait une montagne de quelle hauteur ?
Alors, j'ai plus les chiffres en tête, je dois le dire. Brest, je l'ai baptisé la montagne du Ponant. Se dresse effectivement tout au bord de la France, hein, parce qu'après, il n'y a plus rien. Il n'y a pas Ouessant et Molène, forcément. Et la montagne, je crois qu'elle est enneigée de mémoire sur la carte. Je n'aurais pas une hauteur exacte à donner. Hein.
Ouais. Bon, c'est pas une ville énorme non plus, Brest. Hein, c'est la plus petite des métropoles.
Ouais,
donc,
je ne sais pas ça.
Ouais. Enfin, je crois. Des 30 métropoles, c'est, en termes d'habitants, c'était la plus
d'accord.
Petite. Alors, donc, en fait, quand vous choisissez vos sujets, vous avez des sujets de prédilection, hein, je les ai un peu cités, j'imagine, mais comment vous faites quand vous choisissez vos sujets?
Comment je fais ? Je vais citer un ami qui lui-même cite quelqu'un qui disait très justement le géographe pense en marchant. Et moi, je trouve que les idées me viennent en marchant, en faisant du vélo, en me baladant quelque part, en regardant le paysage et en essayant d'imaginer une version augmentée, une version où on met un petit peu de chaos en fait dans ce paysage, où on ajoute quelque chose. Et c'est après là que je me dis ok, il faut que je fasse une carte de ça. Et donc ici, forcément en Bretagne, il y a plein de choses à parcourir, à arpenter. Donc si je viens dans les monts d'Arrée, je vais avoir des idées peut-être en lien avec la géologie ou les landes ou ces environnements là. Quand si je vais à Molène, j'ai des idées plutôt qui portent sur la mer, sur les strands, sur le monde marin, la mer d'Iroise, qui est une zone de biodiversité incroyable. Pareil, si on va faire des plongées, on va avoir encore d'autres idées. Donc voilà, les idées viennent plutôt, je dirais, dans mon cas, en marchant, en allant voir des gens, en allant voir des paysages.
Ouais, puis vous aimez bien déambuler avec des modes de transport doux, apparemment. Enfin, peut-être que vous n'avez pas de voiture.
Effectivement, je me suis séparé de la voiture pour avoir un beau vélo qui me permet de faire plein de choses. Et dans le Finistère, on est gâté parce que c'est vite dit parce que c'est pas facile forcément vu la topographie.
Mais il y a du relief.
Il y a du relief, ouais, plus qu'on pourrait l'imaginer. On s'en rend compte en vélo, et ça fait partie aussi de l'expérience, je trouve, géographique d'un territoire. À vélo, on sent la topographie.
Faut le vivre physiquement. En
ouais,
fait, c'est ça.
On vit physiquement. On se souvient d'où sont les côtes. On se souvient à quel endroit il y a une faille ou il y a un talus ou quelque chose comme ça. Et en plus de ça, on voit le paysage un peu plus lentement qu'en voiture. Donc ça permet de mieux s'imprégner, je trouve. Ça vaut aussi pour la marche à pied, bien sûr. Hein. Mais à vélo, il y a une sorte de compromis entre la marche à pied qui est quand même relativement lente et la voiture qui est un peu trop rapide.
Oui, le vélo, c'est la bonne vitesse, on va dire.
Ça que j'aime beaucoup.
Et ça permet quand même de voir le territoire de près.
De voir et d'entendre, de sentir. Il n'y a pas d'habitacle autour de nous. Donc on a les sons, on a la lumière, on a la température aussi. On communie plus avec le milieu et on peut vraiment, en une journée, parcourir 100, 150 km selon la topographie et voir plein de choses quand même en quelques heures. Quoi. On peut aller de Brest on peut aller des Monts d'Arrée aux Abers et voir des choses en une journée qui n'ont rien à voir. Quoi.
Vous êtes un jeune géographe, un cartographe. Le métier a, j'imagine, beaucoup évolué. Enfin, on l'a dit un petit peu du fait de l'informatisation. Enfin, est-ce que les géographes, les cartographes actuels prennent encore le temps d'aller sur le terrain, justement ?
Alors ça c'est une très bonne question. Je pourrais pas m'avancer parce que je connais pas tous les cartographes, mais dans mon expérience, on est aujourd'hui, c'est pas uniquement dans la cartographie, on est aujourd'hui tous très spécialisés et on a notre petite bulle de compétences. Et donc non, je pense que la majorité des cartographes utilisent l'outil numérique, utilisent des ordinateurs, il y a certains logiciels pour traiter de la donnée. Et on ne va pas tellement dehors. Il y en a quelques-uns qui sont sur le terrain, qui après rentrent et font des traitements, bien sûr. J'ai fait ça un petit peu pour l'INRAE, c'était de l'arpentage de parcelles.
Donc agriculture et environnement.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Et il y avait un petit peu de terrain, mais dans la majorité des cas, non, il y a beaucoup de cartographes. Et là, c'est ce que je fais actuellement, j'ai zéro terrain. J'en fais quand même, mais pour le loisir. Je suis allé à Molène pour cartographier l'île à pied, mais ce n'est pas du tout un projet...
C'est pas financé, c'est gratuit.
C'est ça. C'est la passion la plus qui.
Bah oui, mais vous êtes bien obligé, c'est ça. Bah,
oui,
vous trouvez que c'est important de garder contact
oui,
avec le terrain.
Oui, bien sûr. On s'éloigne de la terre, on s'éloigne de ces choses-là qui font la beauté d'un territoire. Quand je vais une carte d'un lieu et que je suis pas allé, je m'oblige à y aller. Ça me semble un peu. J'ai l'impression de manquer une étape si je fais une carte d'un endroit sans y avoir mis les pieds. Donc voilà, je me force un petit peu à y aller.
Non, mais en fait, il y a beaucoup de professions, je pense, qui sont concernées par ça.
Oui,
enfin,
oui,
un
oui.
peu comme les journalistes qui sortent plus jamais de leur bureau.
Chacun spécialisé.
Voilà, c'est ça. Ouais, puis l'informatique fait qu'on se déplace de moins en moins finalement.
Ah oui, je peux faire une carte du Pérou depuis ma chaise de bureau en fait.
C'est ça.
Avec des données hyper précises.
Elle sera très bonne cette carte sûrement.
Oui, ça c'est plus une question de temps.
Ouais. Oui, voilà. Alors, c'est une autre question qui est sans doute une question un peu piège, mais combien de temps on met à faire une carte ? Alors prenons le cas d'une carte pas spécialement artistique déjà. Combien de temps ?
Alors il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a la taille de la carte, c'est-à-dire que si je fais une carte pour un musée qui veut l'afficher sur un support de 2 mètres, il faudrait qu'elle ait un niveau de détail important, donc le niveau de détail prend du temps forcément. Et ça c'est une règle assez proportionnelle, hein. Petite carte peu de temps, grande carte beaucoup de temps. Après il y a la donnée qu'on doit trouver. Des fois ça arrive que moi il y a une donnée, j'ai mis un an et demi pour la trouver.
Ah oui, bon, par exemple
c'était les particules fines du nord de l'Inde dans l'atmosphère.
C'est d'actualité.
Ah oui, c'est d'actualité, ouais. Et là justement je l'ai enfin trouvé. Alors bien sûr pendant un an et demi j'ai pas passé mon temps à la chercher, hein.
Oui bien
mais
sûr,
plusieurs
oui.
fois je suis revenu dessus, j'ai attaqué, j'ai pas trouvé et ils sont bien cachés, quoi.
Ils ont pourtant un ministère de la Santé en Inde. Mais
alors, c'est ça. En fait, il y a un truc aussi quand on charge des données, c'est qu'il y a plein de sources. Il y a des sources nationales, il y a des sources mondiales, des sources régionales, il y a des sources gouvernementales et plutôt associatives. Donc là, en l'occurrence, c'était l'université de Saint-Louis aux États-Unis qui avait cette donnée. Donc voilà, pour trouver ça, il fallait vraiment chercher longtemps.
Il fallait penser à Saint-Louis pour avoir les données de l'Inde.
Ouais,
okay.
En effet. De novembre 2017 ou 2020, je ne sais plus exactement.
Oui, finalement, vous faites un travail d'enquêteur aussi, ouais, enfin, de journaliste ouais. aussi d'ailleurs.
Ouais, si l'enquête. On veut, hein. C'est pas ouais. très rigolo. C'est pas la partie qui me plaît le plus, chercher la donnée.
Ah oui.
Parce que c'est assez frustrant. Hein. Et c'est surtout c'est l'étape qui conditionne toute la carte.
Ouais.
Alors, il y a des cartographes qui n'utilisent pas trop de données, qui vont dessiner plus que traiter de la donnée. On peut partir d'une carte d'une feuille blanche et faire des tracés, ça s'appelle tracé vectoriel sur les logiciels, on va tracer des courbes et tout ça. Là, il n'y a pas de données, hein, forcément.
Ah oui.
Ou alors, il y a peut-être des inspirations. Moi, par contre, je me base sur vraiment une donnée qui va être le fond de carte. Et là, elle est plus critique. Quoi. Donc, si j'avais pas de données, il n'y a pas de carte.
Voilà. Donc, ça peut prendre du temps.
Ça peut prendre du temps.
Et après, l'exécution. Donc, vous dessinez manuellement ou avec un logiciel, enfin, comment vous faites quand vous dessinez une carte?
C'est entièrement numérique, sauf pour la fameuse carte là, de Molène. Donc, je suis allé à pied. Mais les autres sont numériques et sont faites sur Adobe Illustrator, qui est un logiciel de dessin vectoriel que plein de gens utilisent, hein, mais sont faites comme ça.
Mais pour qu'il y ait une personnalité artistique, un style, là, c'est votre talent, quoi. Enfin,
c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de tutoriel pour. Il y a des tutoriels qui existent, bien sûr, pour recréer des effets. Hein. Il y a des effets dans le logiciel qui existent, mais après pour invoquer un imaginaire, pour invoquer des sentiments dans la carte, c'est là que c'est plus dur.
Ouais. Vous avez des inspirateurs peut-être, non?
Ouais, bien sûr. Je pense que sans source d'inspiration, on peut pas. Enfin, moi, je ferais pas grand-chose. Hein. Il y a des gens, il y a des cartographes, et pas que cartographes. Il y a des gens incroyables qui font des choses incroyables. Il y a des cartes de National Geographic début que je prenais pour exemple, qui sont très belles, très académiques. C'est un peu le classique, hein, sont très belles. Après, il y a aussi des
Illustrateurs peut-être, là je pensais à des cartes fictives, hein, je sais pas, peut-être des illustrateurs du Seigneur des Anneaux.
Oui, c'est vrai, c'est une très belle idée.
Il a dû faire des cartes, lui.
Elles sont très belles. Hein, sont très belles. Il y a plein de gens qui se sont essayés à ce style-là d'ailleurs, dans ce style à la Tolkien. Il y a des cartographes contemporains comme Marine Le Breton qui a fait un livre qui s'appelle les cartes marines. Donc elle a fait tout le littoral français à la main. Donc ça c'est un très beau travail aussi, donc belle source d'inspiration. Et il y a des cartographes numériques qui sont un petit peu mes collègues au niveau de la discipline et qui vont trouver parfois des nouveaux outils, qui vont avoir des nouvelles idées. Et vu qu'on est tous des cartographes sur Terre qui vivons dans des endroits différents, on va chacun faire des cartes de notre petit bout de Terre, de notre petit bout de planète, et on va se montrer mutuellement ce qu'on a fait. Et c'est là que c'est incroyable. Parce que selon qu'on habite en montagne ou au bord de la mer, on va avoir des idées complètement différentes. Et ça, c'est un peu... J'ai presque un terroir, en fait, on pourrait dire, dans la carte que les gens produisent. C'est assez génial.
Alors vous, c'est forcément un peu maritime. Il y en a une... Alors, je ne sais pas si c'est votre initiative ou si c'était une commande sur... alors, le Portulan, vous avez appelé ça le...
Portulan moderne.
Donc, voilà. C'est une fiction. Mais c'était une commande ou c'est vous qui avez eu l'idée?
Non, ça, c'était vraiment une idée.
C'est un Portulan, déjà?
Un Portulan, bonne question, c'était des cartes médiévales qui étaient faites à l'usage des marins, des navigateurs, des marchands, qui à cette époque avaient besoin d'un repère, comme aujourd'hui on utilise Google Maps. Ils avaient besoin, eux, d'un repère pour trouver les ports le long de la côte qui étaient sûrs, là où accoster, là où passer la nuit, là où étaient les dangers, les choses à éviter en bateau. Eux, ils avaient ces espèces de grandes cartes.
Des cartes des côtes uniquement.
Ouais, c'est ça. D'accord. C'était uniquement des cartes des côtes. L'intérieur des terres était assez vide, hein, parce que bon, des fois, ça n'avait pas d'usage, mais pas forcément. Des fois, on ne connaissait pas, en fait. Les marins faisaient ce qu'on appelle les cabotages. Ils faisaient des petits sauts de puces de mer le long de la côte. Et donc, ça donne des cartes qui sont comme des espèces de longs rubans.
C'est des frises, un peu, en fait. Quoi.
Ouais, elles ont une apparence assez singulière et je les trouve très jolies. Et elles sont aussi ornementées de plein de choses, parce que c'était le Moyen-Âge et que c'était la fête. On imaginait des monstres et des dragons, des sirènes partout. il y avait beaucoup de créativité, hein, à l'époque qui s'est un petit peu perdu aujourd'hui.
Parce que maintenant on fait de la science, alors on ne s'autorise pas des petits délires de dragons. c'est bien dommage.
Il y avait une phrase qui était écrite en latin, c'était Hic sunt drago. Alors, mon latin n'est pas très bon, d'ailleurs, j'ai jamais fait de latin. Donc... Alors, en français, c'était ici, ce sont des dragons. Hic sunt dragonus, quelque chose comme ça. Et cette phrase, ici, ce sont des dragons, ça veut dire c'était là où c'était les zones inconnues sur la carte. C'est là où le terrain incognita, la zone de brouillard. Et donc, sur ce Portulan moderne de la Bretagne que j'ai fait, j'ai récupéré ce concept médiéval qui date un petit peu quand même, pour le remettre au goût du jour. où au lieu des dragons, on a des Bretons. Donc tout l'intérieur de la Bretagne, l'Argoat, il est sous un brouillard beige. Et j'ai écrit ici, sont des Bretons. Il n'y a que les côtes qui sont cartographiées, où on a toutes les informations possibles sur les ports, sur les mouillages, les dangers, les récifs, les courants, les zones de brume, les phares. Et c'est là qu'intervient l'aspect moderne, c'est que cette carte-là n'est plus à la destination des marchands d'épices et de poivres qui reviennent, qui reviennent des célèbres. Elle est à l'intention des écotouristes du futur qui se déplacent en voilier. Qui, voilà.
Bah, écotouristes ou même, éco-acteurs, enfin je veux dire, économiques, ouais. Pas forcément les touristes finalement.
Oui, ça peut être à l'usage de gens qui veulent juste se déplacer, hein, parce que le déplacement est pas réservé aux touristes.
Oui, puis là, même on voit fleurir, il y a Grand Sail par exemple qui est connu, on voit fleurir des entreprises qui promeuvent le transport à la voile.
C'est vrai, c'est un bon futur. Je pense qu'eux, ils se débrouillent pas mal, ça a l'air d'être. Bien sûr, en termes de déplacement total, ça reste...
c'est très marginal, peut-être que dans l'avenir, il y en aura plus.
J'espère. Et c'est justement, cette carte-là se place dans un avenir où c'est exactement ça qui s'est produit. Les touristes utilisent, pas que, mais en l'occurrence, les touristes utilisent le bateau pour se déplacer. Donc les autoroutes ont été un petit peu désertées.
Allons-y, supprimons les autoroutes.
Le chassé-croisé se fait plus sur un axe Molène, Quimper, Saint-Nazaire que terrestre. Et il y a plein d'informations sur les plus beaux paysages de Bretagne à voir le long de la côte. C'est ça l'idée du Portulan moderne.
Donc c'est plus une carte touristique.
C'est ça. J'avais destiné ça de mémoire aux voyageurs nostalgiques, aux vagabonds marins et aux éco-voyageurs du futur, quelque chose comme ça.
Avec un bison futé maritime aussi. Le l'eau vous intéresse visiblement, puisque vous habitez évidemment Brest. Vous avez transformé les rivières en arbres. C'est quoi cette carte ?
Alors cette carte-là, c'est vrai que c'est encore une idée un peu bizarre. L'idée, c'est que quand on regarde une carte d'un réseau hydrographique, d'un bassin versant, donc une rivière et tous ses affluents, ça peut assez vite donner... c'est assez vite faire penser à un arbre. Parce que si on regarde bien, il y a la rivière principale qui est comme un tronc, qui est plus large que le reste. Et après, à chaque affluent... branches, et puis après on remonte aux ruisseaux qui sont vraiment le bout des branches. Et donc voilà, ça c'est l'observation de base que j'ai faite et que je ne suis pas le seul à avoir faite. Et je suis allé juste un petit peu plus loin, j'ai pris des cartes de rivières, de françaises, mais aussi dans le monde, et je les ai toutes désorientées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus orientées vers le nord, elles sont orientées dans un sens qui fait que la rivière prend l'apparence d'un arbre. Et donc sur cet arbre... qui a un bon tronc bien épais qui va vers le bas et les sommets des branches qui touchent le ciel et la neige des montagnes, elle ressemble à des arbres sous cette forme-là. Et sur cet arbre-là, il y a des gros fruits qu'on appelle les villes, où il y a plein d'humains qui habitent.
Ouais, parce que finalement, presque toutes les villes sont au bord des rivières, quasiment.
Les plus grandes villes mondiales, soit c'est les rivières, soit c'est sur la côte. Et il y a beaucoup de choses à dire. Les rivières, c'est pas qu'un aspect géologique ou hydrologique. Les rivières, il y a des notions culturelles énormes. C'est un axe de déplacement, c'est des territoires de vie, les bassins versants, il y a énormément de choses à dire. Et donc, chaque arbre a une identité. Et donc, à chaque arbre rivière, je donne un nom botanique basé sur un arbre qui correspond un petit peu à la rivière. Donc, pour la Loire, j'ai choisi le chêne, Quercus robustus, qui devient le Quercus ligeris, l'arbre Loire, le chêne Loire. Et donc voilà, j'ai écrit un petit texte pour chaque rivière pour faire un portrait botanique de chaque rivière.
Et puis une toute récente carte géologique. Alors là, Tour de France géologique.
Le Tour de France géologique à vélo, effectivement. Ça, c'est une autre idée qui reprend un petit peu le concept du fameux Tour de France que tout le monde connaît, mais qui là a pour but de nous faire passer à travers les 640 millions d'années d'histoire géologique de la France. Donc bien sûr, le Tour démarre à Brest, hein, ça ne s'invente pas.
Oui, quand même. Logique.
Je veux que ça soit près de chez moi quand même pour le commencer. Et il passe par tout le nord de la Bretagne, par le Cotentin, par la Normandie, par les falaises d'Étretat, Rouen, il va à Paris, après à Champagne et Vosges, Massif Central, Vallée du Rhône, Alpes, Provence et ça finit dans les Calanques. Donc avec ce tour-là qui fait quand même 3500 km à vélo, c'est pas rien. j'avoue. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que j'aille le faire. Je peux pas faire la carte sans
avoir... C'est des projets aussi.
C'est un projet, ouais. Donc, il faut bien 2 mois pour le faire parce que ça grimpe. Hein.
Ouais,
mais on voit les 600 millions d'années de l'histoire géologique de la France, on voit énormément de paysages.
Ouais.
Et c'était vraiment une,
ouais,
une.
Et d'ailleurs, les plus anciennes sont dans les Côtes d'Armor, je crois, non?
Ouais.
Les plus anciennes roches, non?
Exactement. Alors, elles sont, c'est pas une couche entière, donc elles sont marginales, mais il y a des roches de 2 milliards d'années à Port-Béni dans les Côtes d'Armor, ouais. Mmh. 2 milliards d'années, voilà. Ouais. C'est
quelque chose, quand même.
C'est un truc incroyable, ouais.
Très bien. Eh bien, on va vous remercier, on va s'arrêter là, puis vous reviendrez, parce que vous aurez sûrement d'autres cartes à partager avec nous. Et puis, on pourra réécouter cette interview sur le site internet de Transistor.
Merci d'avoir su.